Les sciences sont une source inépuisable d'étonnement, de fascination, de découverte ou d'interrogation. Embarquez dès maintenant pour un nouveau voyage au cœur des sciences. Savez-vous quel est le point commun entre le Velcro, le TGV japonais ou encore le système d'aération d'un immeuble au Zimbabwe ? Rien en apparence, et pourtant ces trois exemples font tous appel à ce que l'on appelle le biomimétisme, ou comment la science et la technologie peuvent s'inspirer de la nature. On vous propose aujourd'hui une plongée dans l'innovation bio-inspirée avec Catherine, bénévole à Altech. Bonjour Catherine.
Bonjour Camille.
Alors pour commencer, est-ce que l'on peut définir ce qu'est le biomimétisme ?
Le biomimétisme, c'est une démarche qui consiste à aller chercher l'inspiration dans le vivant pour répondre à une problématique que nous nous posons, nous les humains, avec en plus une envie de répondre plus économique, plus écologique. On parle aussi de bio-inspiration, car l'idée n'est pas de copier la nature, mais plutôt de s'en inspirer.
Alors, est-ce que le biomimétisme, c'est un domaine scientifique récent ?
On parle avec ce terme-là de biomimétisme depuis les années 90, donc c'est récent dans l'histoire des sciences. Mais le fait d'observer puis d'imiter la nature pour reproduire des nouvelles technologies n'est pas nouveau. La nature a toujours été une source inépuisable de progrès et d'innovation. C'est par exemple en observant les ailes de la chauve-souris que Clément Ader, l'un des pionniers de l'aviation, a construit à la fin du 19e siècle l'Éole, un prototype d'avion, qu'il aurait réussi à faire décoller de 20 cm du sol et à faire voler sur 50 mètres environ. On aurait pu parler à ce moment-là de biomimétisme.
Si on cite un autre ingénieur très connu qu'on ne présente plus, Léonard de Vinci, il disait déjà il y a plus de 500 ans, apprenez de la nature, vous y trouverez votre futur. Donc c'était bien prémonitoire. En 2007, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques français désignait le biomimétisme comme l'outil de la prochaine révolution industrielle. On sent bien l'enjeu, notamment économique, par rapport à ce domaine scientifique. Comment est-ce qu'on explique cet engouement finalement assez récent, on en entend de plus en plus parler, pour l'innovation bio-inspirée ?
Les scientifiques se sont rendus compte en observant la complexité du vivant que les différents organismes, les animaux, les végétaux, les bactéries, ont développé au fil de leur évolution des réponses parfaitement adaptées aux contraintes de leur environnement naturel. Et puis ces contraintes sont aussi les nôtres. Par exemple, comment exploiter les sources d'énergie renouvelables ? Comment réagir à des conditions de température particulières, comment recycler le carbone atmosphérique, ou bien encore comment transmettre de l'information avec un coût énergétique modéré.
Oui, il y a d'ailleurs une formule associée au biomimétisme et qui la résume très bien. À chaque fois que vous rencontrez un problème, observez la nature car celle-ci a déjà probablement été confrontée à ces difficultés et a peut-être déjà trouvé une solution. Maintenant, Catherine, pour passer de la théorie à la pratique, on imagine que c'est un petit peu plus compliqué que ça.
Oui, c'est un peu plus complexe, mais c'est aussi ce qui rend la science biomimétique intéressante, voire même passionnante. Parce que c'est une démarche interdisciplinaire qui passe par trois étapes. Tout d'abord, il y a la recherche fondamentale qui observe, analyse, modélise le vivant. Puis viennent les sciences de l'ingénieur qui vont traduire ces modèles biologiques en concepts techniques. Et enfin, dans un troisième temps, les entrepreneurs vont s'en emparer et passer au développement industriel, par exemple en fabriquant de nouveaux prototypes.
Si on transpose cette démarche dans un exemple concret dont les technologies sont déjà à notre portée, on peut prendre celui du gecko, qui est une sorte de lézard qui a été beaucoup étudié par les biologistes, notamment pour sa capacité à s'accrocher et se déplacer sur tout type de parois. Et en fait, cette capacité est liée à la texture très particulière de ses pattes qui possèdent de nombreux plis. Les ingénieurs ont reproduit cette texture pour créer des surfaces qui soient très adhésives et extrêmement résistantes. Et ensuite, les entrepreneurs s'en sont inspirés pour développer soit par exemple des robots grimpeurs ou encore des cols spéciales pour l'entreprise automobile. C'est le cas notamment de Ford. Catherine, on donnait en introduction de cette chronique trois exemples de technologies bio-inspirées, à savoir le Velcro, le Shinkansen qui est le TGV japonais et enfin un immeuble au Zimbabwe. Alors en quoi ces trois exemples sont-ils du biomimétisme ?
Pour ce qui est du velcro, qu'on appelle aussi le scratch, ça s'inspire du fruit de la bardane, qui s'accrochent facilement lorsque nous nous promenons en forêt à nos vêtements, aux poils des animaux. Et c'est dû aux épines du fruit qui sont terminées par des crochets qui se prennent dans les poils et les tissus à boucles et qui reviennent à leur état initial, à leur forme initiale, une fois arrachés du support. Cette observation a plu énormément et a inspiré un ingénieur suisse qui a eu l'idée de créer ce type de fermeture très pratique, rapide pour le vêtement.
Donc on regardera les chaussures à scratch d'un œil totalement nouveau maintenant.
Tout à fait. Et puis pour ce qui est du TGV japonais, le Shinkansen, qui est connu notamment pour sa grande fiabilité et son record de vitesse qui peut atteindre 320 km/h, sa tête de train a été inspirée par la tête aérodynamique du Martin Pêcheur, ce qui permet de gérer au mieux les surpressions en entrée de tunnel.
Et donc, pour ce fameux immeuble au Zimbabwe, qu'est-ce qu'il a de particulier ?
Alors lui, c'est les termitières qui l'ont inspiré. Des termitières et notamment leur système d'évacuation, de climatisation naturelle, qui a permis de réguler les fortes chaleurs. Le secret de cette climatisation réside dans de hautes cheminées centrales qui surplombent le nid de la termitière. Ainsi, l'air chaud est attiré vers le haut, puis évacué par les cheminées. Et ce phénomène entraîne un courant d'air, d'où un rafraîchissement.
Alors avec ces trois exemples, on voit déjà que le biomimétisme, ça peut s'appliquer autant dans la création de nouveaux matériaux, on l'a vu avec le gecko, mais aussi avec le velcro, le transport ou encore l'architecture des bâtiments. Dans quel autre domaine peut s'appliquer le biomimétisme ?
Oui, effectivement, il y a de nombreux autres domaines. On peut parler du domaine de l'information, on peut travailler sur l'amélioration de son transport et de son stockage, on peut travailler également sur le développement de l'intelligence collective, en observant les essaims d'abeilles, les grillons. On peut aussi travailler dans le domaine des énergies. Réfléchir à mieux utiliser l'énergie solaire. Comment optimiser notre consommation d'énergie. Pour ce qui est du traitement de l'eau également, comment purifier l'eau, la récupérer en milieu aride, la stocker par exemple. On peut s'intéresser encore, et pour finir, au domaine de la chimie verte, pour trouver des molécules biodégradables, biocompatibles, ou rechercher à dépolluer les sols. Tout cela en observant la nature.
Bulle de science. Alors Catherine, on vient de voir que la science biomimétique, elle a un rôle très important à jouer, notamment dans l'industrie et dans un objectif de développement durable. Depuis 2014 d'ailleurs, il existe en France un centre européen d'excellence en biomimétisme, c'est le CIBIOS, qui se trouve en Picardie. Dans le domaine de la médecine par exemple, quel type de projets sont développés grâce au biomimétisme ?
On peut parler, si vous voulez Camille, par exemple du requin. En observant le requin, la structure de son revêtement cutané, ça a permis aux scientifiques de développer un revêtement antibactérien de qualité.
Alors là, vous m'intriguez, parce que déjà, le requin, c'est mon animal préféré. Et en plus, il est souvent sous-estimé. Comment est-ce qu'on fait pour développer un revêtement antibactérien à partir de la peau de requin ?
On a observé la peau du requin qui est recouverte de denticules cutanées en forme de pointe. On les appelle denticules parce qu'elles ont la même structure que notre dent. Et ces denticules forment donc un exosquelette, une sorte d'armure extérieure qui protège l'animal de toutes les agressions, des parasites, des micro-organismes marins qui s'empêchent, qui ne peuvent pas adhérer à sa peau. C'est une barrière antibactérienne naturelle extraordinaire. À partir de ces données, les entreprises ont étudié puis reproduit cette structure en la modifiant un petit peu, puis s'en sont servis pour recouvrir les parois, les appareils des salles d'opération ainsi que le matériel médical. Et ainsi, on peut lutter efficacement contre toutes ces bactéries pathogènes qui sont malheureusement responsables des maladies nosocomiales. En effet, ce revêtement va permettre de propager 94% des bactéries en moins que sur une surface de base ordinaire.
Oui, et puis sans utiliser du coup de produits antibactériens qui peuvent après avoir d'autres problèmes. Mm-hmm. Toujours dans le domaine médical, il y a une invention bio-inspirée qui réjouit les personnes qui ont peur des aiguilles, et ce grâce à un autre animal qui est beaucoup mal aimé, c'est le moustique.
Et oui, le moustique. Il est vrai que lorsqu'on est piqué par un moustique, on le sent rarement. Alors cela est dû pas uniquement à la taille de sa trompe qui est assez réduite, mais aussi à la forme de celle-ci qui est conique et non pas cylindrique. Les chercheurs s'en ont inspiré pour développer de nouvelles aiguilles médicales, à la fois de taille très réduite et de forme conique, ce qui limite énormément la douleur.
Et qui devient du coup, ces aiguilles deviennent indolores pour les patients. L'un des autres grands enjeux auxquels la science doit faire face, c'est le dérèglement climatique, et notamment comment limiter le CO2 atmosphérique en partie responsable de l'effet de serre. Est-ce que le biomimétisme peut apporter des réponses sur ce champ-là ?
Oui, pour limiter les effets à effet de serre, limiter les gaz à effet de serre, c'est essayer de séquestrer le carbone atmosphérique. Et pour cela, les scientifiques misent sur les propriétés de certains arbres qu'on appelle oxalogènes, comme par exemple l'iroko, présent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et puis le noyer maya pour l'Amérique du Sud. Ces arbres oxalogènes ont pour propriété de transformer le dioxyde de carbone en calcaire, qui est ensuite stocké dans le sol au niveau de leurs racines. En transformant ainsi le CO2, l'arbre oxalogène limite la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Par exemple, l'iroko peut stocker par année 21 kg de CO2, ce qui n'est pas négligeable.
Par arbre, du coup.
Et par arbre, oui. Et en plus de cela, l'arbre fertilise le sol en l'enrichissant.
C'est super, du coup on pourrait même imaginer des projets d'agroforesterie, par exemple dans les régions qui sont touchées par la déforestation, on pense notamment à l'Amazonie qui a été beaucoup touchée cet été. Il y a des projets qui peuvent se développer sur ce principe-là.
Oui, tout à fait Camille, il y a actuellement des projets d'économie circulaire, humanitaire et environnementaux qui consistent à planter des arbres oxalogènes dans certaines régions du monde. Par exemple, en Haïti, le projet Arbre Sauveur est mis en place. On plante des noyers maya. Grâce à ce geste, on va à la fois limiter les gaz à effet de serre, lutter contre le déboisement, enrichir les sols, les fertiliser pour permettre ainsi le développement de projets agricoles qui offrent une autonomie à la population, notamment aux femmes, puisqu'on les incite à planter 5 à 10 noyers maya dans chacun de leurs jardins, et puis nourrir également la population. Parce que la noix séchée, la poudre de noix séchée va fournir une farine qui va alimenter ces populations.
C'est vraiment un projet global,
oui,
du coup.
Tous ces gestes sont bien engagés, oui.
Alors, avec tout ce que l'on vient de développer en termes d'exemples, on a l'impression que le biomimétisme, il peut entrer dans tout un tas de secteurs différents.
Oui, tout à fait. Plein de secteurs, notamment industriels, qui peuvent potentiellement être impactés par les avancées technologiques apportées par ce biomimétisme. On peut citer le domaine des transports, on l'a vu avec le TGV japonais et le bec du Martin Pêcheur, l'architecture et le bâtiment avec l'exemple du bâtiment climatisé grâce à l'observation des termitières, le domaine des énergies, l'économie circulaire et l'agroalimentaire avec le noyer maya en Haïti, la santé, comme votre chère peau de requin et votre trompe de moustique, mais encore la cosmétique, la chimie, l'aéronautique et le spatial, l'information et la communication, avec cette fois-ci des fourmis, dont on travaille le trajet, on observe le trajet.
Ouais, et si vous souhaitez en savoir plus et découvrir d'autres exemples super intéressants de biomimétisme, on ne peut que vous recommander la web-série Nature égale futur. C'est une quarantaine d'épisodes de 5 minutes chacun qui vous présente différents projets de recherche en biomimétisme et c'est vraiment passionnant. On vous mettra bien sûr le lien sur le site de Radio B, rubrique Bulle de Science. À noter également qu'en ce moment, au Monastère Royal de Brou est présentée une exposition de l'artiste contemporain Jérémy Gobet, intitulé Anthropocène et dont les réalisations sont notamment inspirées de la nature. C'est à voir jusqu'au 5 janvier au monastère de Brou. Catherine, qu'est-ce que l'on peut retenir du biomimétisme ?
Comme vous le disiez Camille au tout début, à chaque fois que vous rencontrez un problème, observez la nature et celle-ci a probablement été confrontée à ces difficultés auparavant et a déjà trouvé une solution. C'est une belle invitation à observer davantage la nature et puis à rester humble.
Tout à fait. Faisons preuve d'humilité. Merci Catherine pour cette belle conclusion. Nous voulions en profiter pour rendre un hommage à Madeleine Pacot, ancienne professeure de SVT qui nous avait aidé à plusieurs reprises sur l'écriture des chroniques Bulles de Science et qui malheureusement nous a quittés récemment.
J'avais eu l'occasion de travailler avec Madame Pacot. C'était une femme dynamique, enthousiaste, qui aimait faire comprendre les sciences et faire aimer les sciences.
Et c'est bien ce qui nous rassemble dans Bulles de Science. Cette chronique lui est naturellement dédiée. Merci pour votre écoute, merci à vous Catherine.
Merci encore Camille.
On se retrouve le mardi 26 novembre pour notre prochaine chronique Bulle de Science. On parlera toujours d'innovation technologique avec le mouvement de la low technology ou low tech, des basses technologies qui prennent le contre-pied de la high tech, très gourmande en ressources et en énergie, pour proposer des solutions technologiques plus écologiques et plus durables. Retrouvez toutes les chroniques d'Altech sur le site de Radio B, radio-b.fr. À bientôt.